sais pas ce que c'est. Non, c'est que comme il est là, et, c'est beau de chanter la parole de Dieu. Et c'est bénéfique. Est-ce que quelqu'un aurait aimé être présent et écouter les prédications de l'apôtre Pierre? Il n'y en a qu'un? Eh bien, je vous propose d'en écouter une, enfin de la lire. Probablement un résumé. Donc, dans le livre des Actes, Actes 10, donc c'est quand Pierre va chez Corneille. En fait, c'est la première fois que le salut en Jésus, mort et ressuscité, que l'évangile est prêché à des païens. Précédemment, Philippe avait prêché en Samarie, mais il connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et il l'adorait déjà, même s'il y avait des mélanges. Mais là, voilà. Donc, et c'est pas n'importe quoi. Il faut que je situe un peu les choses. Corneille craignait Dieu déjà. Et il donnait de l'aide matérielle, financière aux gens autour de lui, en l'occurrence à des Israélites et à d'autres. Et puis à un moment, Dieu envoie un ange. Vous lisez ça au début du chapitre 10. Il envoie un ange pour lui dire: tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, il a vu. Et il lui dit d'envoyer quelqu'un et de faire venir Pierre. Enfin, pour Corneille, c'est un certain Pierre. Il lui dit où il est. Donc, si vous voulez, c'est un peu la chasse au trésor. Il lui dit où il est, va à Jaffa, etc. Il lui dit où il est logé. Il est logé chez un autre Simon, corroyeur. Et puis, il lui dit, et ça c'est Pierre qui le rapportera après l'événement, au chapitre 11, donc on y reviendra sur ce point précis. Il lui dit, quand ce Pierre, que tu ne connais pas du tout, viendra, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Ça vaut le coup. Alors, je me dis, il y a un ange qui est venu directement du ciel chez Corneille lui parler. Pourquoi Dieu lui fait dire, va chercher Pierre qui te dira. Oui, donc, et c'est comme ça que commence le chapitre 10. Donc forcément, ça éveille mon attention à ce que Pierre va prêcher. Vous comprenez? Si Dieu veut que ce soit un de ses disciples qui le dise, le contenu de ce qui va être dit est forcément super bénissant. Et important, en l'occurrence vital. D'accord? Donc, après, il ne faut pas s'étonner que quand Pierre arrive, Corneille se jette à ses pieds. Et Pierre dit, lève-toi, je suis un homme moi aussi. Et il est tout gêné, Pierre. Et donc, si vous voulez, on commence à lire au verset 34. Ce que Pierre prêche commence au verset 36, mais il donne quelques mots personnels d'introduction. Et donc de 34 jusqu'à 44 inclus. D'accord? Donc dans le livre des Actes. Quelqu'un a été encouragé ce matin à lire les Actes. Mais alléluia! Alors non seulement il y a les aventures, mais il y a même le contenu des prédications. Waouh! Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'est-à-dire qu'il commence par témoigner rapidement d'une transformation que Dieu a faite en lui, la dernière, celle du jour, si vous voulez, ou de la veille. On m'avait éduqué qu'un juif ne peut pas rentrer chez un païen, manger avec lui, etc. La loi ne disait pas ça, hein, accessoirement. Ça, c'était juste la tradition. Et Dieu m'a montré que non. Il y a l'épisode de la vision sur le toit. Bon, ok. Dans le même chapitre 10. Voilà, Dieu m'a montré. Et c'est très important qu'il commence comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un grand spécialiste qui va doctement expliquer la voie du salut, mais c'est un disciple de Dieu, c'est un apprenti, c'est quelqu'un que Dieu est encore en train d'enseigner. Donc, tout ce que je vais vous dire, comme si Pierre leur disait ça, tout ce que je vais vous dire, quelque part, je me situe avec vous parce que je suis non seulement bénéficiaire, mais je continue à être bénéficiaire de celui dont je vais vous parler, du Sauveur. C'est très important quand on parle de Dieu, soit entre frères et sœurs, pour s'encourager, s'exhorter, enseigner, soit à des non-chrétiens, c'est très important de ne pas se positionner comme simplement celui qui sait et qui transmet l'info. Voilà. Pourquoi ? Parce que le tract d'évangélisation, c'est moi, c'est ma personne. Voilà. Et donc, Pierre commence à situer sa propre personne en disant « Je suis un bénéficiaire. Je suis quelqu'un que Dieu enseigne. » Voilà. Donc là, je ne peux que me mettre derrière lui, moi aussi. Et les choses que je vais dire, évidemment que j'en suis le premier bénéficiaire et le premier reconnaissant, puisqu'on va parler de Christ. Et donc, verset 36, et là, et c'est là où il commence, c'est le contenu même de ce qu'il prêche. Je vous suggère qu'on lise le paragraphe entier et puis après qu'on revienne en détail dessus. C'est bon ? Alors, c'est probablement un résumé de sa prédication. Donc, Pierre parle, en parlant de Dieu, puisqu'il dit « Dieu m'a montré ». Voilà. Il a envoyé la parole au fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, si l'introduction du chapitre, un ange est venu pour dire, va chercher Pierre, il te dira des paroles par lesquelles tu as été sauvé, tu seras sauvé. Si l'introduction ne me suffit pas, la conclusion doit me titiller. Il dit, attendez, pour que ça finisse comme ça, en vérité, ça n'a pas fini, parce qu'il a été interrompu. Il y a une chose que Jésus leur a dit de prêcher qu'il n'a pas pu dire là. Mais dans le cœur, Dieu l'a fait, dans le cœur des auditeurs, et le Saint-Esprit descend sur eux, ils reçoivent l'Esprit. Alors là, vu l'introduction, vu la chute, la fin, c'est obligé que je me dise, oh lolo Seigneur, moi je voudrais prêcher comme ça. Moi je veux prêcher comme ça. D'accord? Alors, en vérité, il y a plusieurs résumés de prédication. Bon, déjà dans Acte 2, une première de Pierre, et puis une autre dans Acte 4. Il y a à la fin d'Acte 2, en deux versets, il résume aussi que Jésus est le Seigneur, etc. Il y a Acte 13, là c'est Paul qui prêche. Bon, il y en a pas mal. Il y a les témoignages de Paul dans Acte 20, je ne sais pas combien, et puis 26. 22 et 26, je pense, bon, etc. Mais, et donc, vous savez, traditionnellement, dans le christianisme, on appelle ça le kérigme. Qui connaissait pas ce mot? J'aurais plus de succès. Le kérigme. Alors, en fait, chaque fois qu'en français, dans votre Bible, vous avez prédication, ou proclamation quelquefois même annonce, le plus souvent vous avez en grec kérigma, et ça veut tout simplement dire la prédication. Et donc si vous voulez, en théologie classique, le kérigme c'est le résumé, non pardon, c'est le contenu de la prédication originelle des apôtres de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de mystère, il faut être fan du kérigme. Voilà, jusqu'ici vous étiez charismatique, maintenant il faut devenir kérigmatique. Catégoriquement kérigmatique. D'accord? On peut rester un peu charismatique si on veut aussi. Hein? En vérité, on est chrétien. Amen. Ce qui veut dire de Christ. C'est synonyme du mot messianique. Messie, le Christ, c'est la traduction en grec de l'hébreu messie. Les deux mots sont synonymes. Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on déroule plus en détail le contenu? Avec tout ce que j'ai fait pour vous mettre l'eau à la bouche, hein? En vérité, c'est pour me mettre l'eau à la bouche, hein? Il a envoyé la parole au fils d'Israël. D'entrée, si vous voulez, Pierre commence par des affirmations. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il parle à des païens, parce que Corneille a fait venir tout ce qui... sa famille, tout ce qu'il a pu, et tous ses amis. Donc, lui, personnellement, était déjà très dévoué à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, et tous les autres, on ne sait pas. Et Pierre commence par des affirmations. Il dit, voilà, Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël. Pardon, je vais... on va aller à la fin du verset 36. C'est lui le Seigneur de tous. C'est impressionnant. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Tous les païens savaient à quel point, les païens qui vivaient là, sur le territoire, à quel point les Israélites étaient attachés à l'Écriture. Ils avaient la parole de Dieu. Et c'est la première chose qui est évident. Et en fait, Pierre d'entrée leur dit que la venue de Jésus, c'était quelque chose d'encore plus direct de Dieu. Il leur présente Jésus comme incomparable d'entrée. D'entrée comme venant d'en haut, incomparable. En leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez, là, il ne tourne pas en rond longtemps. Hein? D'entrée, la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et là, n'importe quelle conscience, cœur, peut dire, waouh, ça c'est pour moi. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. Vous savez que le mot traduit ici par bonne nouvelle, ça a donné évangile. Et vous savez ce que ça veut dire au départ. Ça vient du mot promesse. Évangile vient du mot promesse. Et ça veut dire ce qui était promis est arrivé. Et c'est pour ça qu'on traduit bonne nouvelle. Si vous voulez, il n'y a pas, si on regarde les mots, l'origine des mots, il n'y a pas le mot bonne, il n'y a pas le mot nouvelle. Si. Et où ? Ça a donné E-V, parce que ça nous est arrivé par le latin. Le U est devenu un V. Voilà, si. Bonne promesse, si vous voulez, mais le sens, c'est ce qui était promis est arrivé. Donc, il leur dit d'entrer ce qui était attendu, espéré, c'est venu par Christ. Si vous voulez, en d'autres termes, Paul dit quelque chose de Paul dit, c'est le même contenu qu'il dit aux Athéniens. Ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que moi je vais vous annoncer. Voilà. Tout ce que vous espériez, c'est la venue de Christ qui le contient et qui va répondre. Vous voyez, regardez comment il a commencé. C'est impressionnant. Hein, c'est, là, il, voilà. Ensuite, donc, affirmer. Il dit que Jésus est la parole divine. Il dit vers qui il a été envoyé, premièrement. Et à des païens, il dit, c'est de Dieu que Jésus est venu. C'est Jésus qui donne la paix avec Dieu. C'est Jésus qui est le Seigneur. Et comment on peut parler de Jésus à quelqu'un qui parle ? Il vient de Dieu. C'est lui qui donne la paix avec Dieu. C'est lui le Seigneur. On pourrait dire, mais attendez, qu'ils se convertissent, après on leur dira, c'est le Seigneur. Mais d'abord, c'est ton sauveur, puis c'est ton Seigneur. Non. Il vient de Dieu. C'est par lui qu'on a la paix avec Dieu. C'est lui le Seigneur. Ensuite, et là, il y a tout. C'est incroyable tout ce qu'il y a à apprendre ici. Jusqu'ici, on a relevé que le kérigme, c'est une est affirmation. Il n'est pas argumentation. La prédication des apôtres n'était pas une argumentation. C'était une affirmation et... Ça y est, là j'ai réveillé les cardiaques. Un récit. Raconter Jésus. Alors ça, c'est pas difficile. Hein. Les enfants peuvent le faire. Verset 37, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a, on reviendra sur ça, hein, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui, et donc il leur décrit Jésus, qui allait de lieu en lieu, et là il dit deux choses, le bien et la puissance miraculeuse qui délivre du malin. Et le récit, il raconte Jésus, et il dit, voilà, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait, il faisait le bien. Et en guérissant tous les tyrannisés par le diable. Car Dieu était avec lui. Alors, les auditeurs de Pierre, ils avaient soit entendu ces faits, ils avaient entendu parler de ce, de cet homme, ce prophète, chacun comme il comprenait. Soit certains avaient même vu quelque chose, ou avaient vu une personne que Jésus avait guérie, ou un démonisé qu'il avait libéré. Mais donc, un rappel des faits suffit ici à Pierre. Peut-être que pour nous, une description plus ample des faits sera utile. Mais en tout cas, la prédication des apôtres de Jésus, donc le modèle, parce que vous aurez compris que c'est le modèle, hein, inclut de raconter les faits. Si vous voulez, Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Comment on prêche le Christ ? Eh bien, en le racontant. Qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. Et puis la suite. C'est simple jusque-là, finalement. D'accord ? Bon, Jean Estubi est content. Amen, amen. Voilà. Et d'une manière générale, notre témoignage en tant que chrétien, c'est d'abord un récit. Vous savez qui c'est qui a dit ça ? Le Seigneur Jésus. Quand il libère complètement l'homme qui était dans les tombes, là, qui arrachait les chaînes, qui vivait nu, tout ça, et qu'est-ce qu'il lui dit ? Va chez les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a usé de miséricorde envers toi. Et souvent, malheureusement, quand on parle au nom de chrétien, on attaque trop sous l'angle de l'argumentation. Mais quand j'argumente, je situe le débat entre sa pensée et ma pensée. C'est une chose. Il y a un temps pour ça, pour discuter, débattre, tout ce qu'on veut. Mais quand je raconte Jésus, quand je prêche Jésus, que je le raconte lui, là, le Saint-Esprit peut mettre la personne face à Jésus. Donc là, ce n'est plus entre la pensée de la personne et ma pensée. C'est entre la personne et Christ lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. On voit qu'en fait, ils ont cru. Pendant que Pierre prêchait, ils ont cru. Ils ont cru et ils ont reçu l'Esprit. Mais vous savez bien que Jésus a dit, le monde ne peut pas recevoir le paraclète. Le paraclète est donné là où Jésus est cru. Le Saint-Esprit, Dieu ne donne pas son esprit à tout homme, il donne son esprit à ceux qui croient son Fils. Ça va jusque-là ? Donc, Pierre focalise l'attention de ses auditeurs sur les actes de Jésus. Il a bien affirmé qui est Jésus, d'où il vient, etc. C'est lui qui donne la paix avec Dieu, c'est lui le Seigneur. Et là, il focalise leur attention sur ce qu'il a fait. Voilà. Et puis, il précise, c'est incroyable parce qu'il y a tout là. Il dit, ce qui est arrivé en fait, il dit, vous savez ce qui est arrivé après le baptême de Jean. Et il ne commence pas tout de suite par dire ce que Jésus a fait, il dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, il le réfère à Dieu. Il prêche Christ, mais le Christ de Dieu. Le Christ qui écoute Dieu, qui est soumis à Dieu. Et qui reçoit de Dieu ce qu'il... Voilà. Et puis, il finit, donc explication, comment il pouvait aller partout en faisant le bien, toujours le bien, toujours le bien, toujours le bien. C'est sans doute le seul point sur lequel, au départ, le non-chrétien sera d'accord avec nous. Que Jésus faisait le bien, que c'était quelqu'un de très, 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 très bien. Vous voyez, là, jusque-là, ils sont d'accord. Alors, après, les miracles, ceci, le salut, le pardon des péchés, bon, là, voilà. Et c'est là où on se fait piéger, on dit, ah, il faut que j'argumente. Il faut que je le convainque qu'il est pécheur. Vous voyez, par exemple, que sais-je, il faut que je le convainque. Alors, et donc, explication, comment c'est possible tout ça ? Et il dit, car Dieu était avec lui. Ça fait que la personne qui commence à s'intéresser à trouver Jésus admirable, en fait, parce que quand tu racontes Jésus, les gens, ils commencent à le trouver admirable. Hein. eh bien, elle est de suite référée à Dieu. Il dit, pourquoi il était admirable? Pourquoi il a fait tout ça? Car Dieu était avec lui. En fait, ils ont à peine commencé à être évangélisés, ils sont déjà enseignés. Non, mais c'est vraiment ça. Ça sera la conclusion du message, d'ailleurs. Sauf qu'il faut que jette un œil à la montre, moi. Bon, je n'ai pas regardé l'heure au début. À quelle heure j'ai commencé? 11h30. Bon, ça me décloupabilise un peu. Ensuite, Pierre, il y a une insistance et on peut se demander qu'est-ce qu'elle vient faire là. Et en fait, c'est la même chose que son introduction à Pierre. Verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. C'est-à-dire, il a affirmé, il a raconté. Est-il encore besoin de pointer le doigt sur lui-même, et nous les autres apôtres avec moi, les autres disciples, ça, nous sommes témoins. Ben, il faut croire que oui. Alors non seulement parce qu'il se situe, comme disciple, mais il s'engage absolument. Je l'affirme parce qu'il vient de Dieu, mais je l'affirme aussi parce que je l'ai vu. Et en cela, chaque chrétien, quand il témoigne, il est appelé à s'engager, à dire, moi j'ai goûté sa grâce, moi j'ai été pardonné, moi j'ai été guéri, et encore hier j'ai été consolé de ceci et de cela. Si vous voulez, de nouveau, le kérigme n'est pas désincarné. La personne qui le prononce, elle s'engage et elle compte. Elle compte. Et c'est pour ça que quelqu'un à qui X, Y, Z a déjà parlé de l'évangile et la personne n'a pas cru, un autre arrive et là il croit. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que les premiers, mais ça veut simplement dire que sa personne à lui, son vécu avec Jésus, Dieu a attesté quelque chose. Celui qui parle de Jésus compte. D'accord ? Et c'est la même chose, là, donc dans le contexte, là, il s'agissait d'amener au salut des gens qui n'étaient pas sauvés, mais c'est la même chose quand on s'encourage et qu'on s'édifie entre chrétiens. Celui qui bénit compte. Et puis ensuite, là, comme au milieu du verset 39, avec une sobriété impressionnante, Pierre dit la croix. Il n'emploie pas le mot ici. Bon, c'était très très connu comme depuis l'occupation romaine. Mais il dit, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Voilà, ils l'ont crucifié. Et retenez bien, enfin retenons plutôt, parce que moi je suis inclus. Là, pareil, Pierre, il n'explique pas. Peut-être que quand on commence avec quelqu'un, ce n'est pas le moment de tout expliquer. Mais il faut affirmer la croix. Si je n'ai pas dit la croix, ce n'est pas le kérigme. On pourrait dire, mais là, c'était l'occasion rêvée d'expliquer l'expiation. Voilà, ça c'est bien. Et c'est vital, évidemment. Sinon, on est tous perdus. Mais là, même pas. Il n'explique pas. Il dit juste, il a été crucifié. Ce que Paul dira, que je vous ai annoncé avant tout, ce que j'ai aussi entendu, Christ est mort pour nos péchés. Ou bien il dira aux Corinthiens, j'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ. Racontez Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? Le premier non-violent? Non, Jésus-Christ crucifié. Et puis après, il dit, verset 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et pareil, il n'argumente pas. Paul a eu un problème à Athènes avec ça. Tant qu'il leur a parlé de Dieu, le Créateur, l'unique, qui donne tout, même quand il a dit que Dieu jugerait les hommes par un homme, Jésus-Christ, personne, il n'y a pas eu la levée de bouclier. Même quand il a dit, il appelle les hommes à se repentir, personne n'a levé son bouclier. Mais quand il a dit, Dieu l'a ressuscité, Dieu en a donné une preuve qu'en le ressuscitant, oh là là là, ils ont commencé à lui rire au nez, etc. On dit, bon, si tu veux, on en parle une autre fois, mais là, maintenant, c'est l'heure du pastis. Pardon. Et quand tu lis les actes en déroulé comme ça, chapitre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 28, quand tu lis, tu le vois, hein, il prêchait la croix, il prêchait Jésus, et plus précisément, il prêchait la croix, la résurrection. Et au tout début, ils insistaient encore plus sur la résurrection, parce que quasiment tous leurs auditeurs avaient été, sinon témoins, tout à fait contemporains de l'événement du procès de Jésus, l'arrestation, le procès, la crucifixion, la mise au tombeau. Donc, ça, si vous voulez, il pouvait le rappeler très rapidement. Et il y a plusieurs versets dans les actes où il y a de la réaction parce que, en la personne de Christ, il prêche la résurrection des morts. Et donc, Pierre n'argumente pas, il dit juste qu'il est ressuscité. En fait, il faut une grande humilité pour dire à quelqu'un, Jésus a été crucifié pour mes fautes et Dieu l'a ressuscité. La grande humilité, c'est d'accepter de ne pas expliquer au début. Juste dire la vérité. Juste dire la vérité. Faire confiance au Saint-Esprit qui lui convainque. Voilà. Et puis, après, il y a encore une insistance là des apôtres sur leur témoignage. C'est la deuxième fois, hein. La première fois il dit nous sommes témoins, et maintenant il dit, verset 40 donc, et Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, d'entrée c'est dit, si vous voulez, ça n'a pas été mis en scène, la résurrection, médiatisé, vous comprenez, sur les réseaux sociaux, enfin je ne sais pas quoi, Dieu a donné à Christ de se manifester, non à tout le peuple, il pouvait, hein. Il suffisait qu'il s'élève, tout rayonnant, et tout le monde, wow. Mais aux témoins choisis d'avance. Et c'est bon pour l'incrédule d'entendre que dès le départ, ça n'a pas été quelque chose qui est passé au journal de 20 heures, mais que Dieu a confié à ceux qui l'aiment, qui le croient, qui le suivent, et qui vont le dire. Le montrer et le dire. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup, je pense que dans le Nouveau Testament, la prédication inclut une démonstration. Quelquefois, c'est le récit de la vie de Jésus qui fait démonstration. Voilà. Et puis, il dit quand même, ensuite, il prend, on pourrait dire, il perd du temps parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, il n'a que 10 versets. Ça c'est de l'humour. On pourrait dire qu'il perd du temps à dire mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Mais c'est vital, c'est un témoignage vital. La résurrection était corporelle, c'est le même corps qui a été crucifié, qui est ressuscité. Ce n'est pas une apparition. Ce n'est pas il est mort et puis par des phénomènes spirituels supérieurs, il est apparu quand même. Oui. Parce que ça, certains vont l'admettre, une apparition. Mais non, l'Évangile sait qu'il est ressuscité corporellement. Et finalement, verset 42, merci. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Est-ce que j'ai bien lu que Jésus a commandé ça à ses disciples? C'est bien ça qui est écrit? Ben voilà un commandement auquel on désobéit allègrement. Honteusement, en fait. On ne prêche pas que Jésus est le juge final. Vous allez me dire, mais est-ce que même au non-chrétien, il faut dire qu'il est le juge final? Bon, si vous êtes plus fort que Jésus, plus le Saint, que Jésus, plus le Saint-Esprit, plus Pierre, réunis, vous pouvez prêcher autre chose. Mais si vous voulez prêcher l'évangile de Jésus, ça fait partie. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. Vous allez dire, mais... Et c'est seulement après ça que, il dit, que par lui, on a le pardon des péchés. Vous voyez, c'est un peu comme dans le Notre Père. Le pardon des péchés, il ne vient pas dès le début. Et pourquoi ? Il dit que, Dieu, que Jésus jugera avant de dire qu'il pardonnera. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un juge qui peut acquitter le coupable. Il n'y a qu'un juge qui peut acquitter. Qui peut déclarer que tu es pardonné, lavé, réhabilité, enfin là c'est pas ré, mais habilité. Et oui, parce qu'on était étrangers et ennemis par nos pensées. Donc la conversion, c'est pas un retour à un état d'innocence qu'on aurait eu. On l'a jamais eu. C'est important ça. C'est pas l'évangile. Si on prêche que c'est retrouver ce qu'on était avant, c'est pas l'évangile. On était perdu, ennemi de Dieu, étranger à Dieu par nos pensées, par nos fautes. Donc, il n'y a que le juge qui peut acquitter. Et là, non seulement Pierre leur dit que par le nom de Jésus, ceux qui croiront en lui seront pardonnés, mais il appuie ça sur le témoignage des prophètes. Et il dit bien, tous les prophètes rendent de lui. Alors vous allez dire, bon là, il s'enflamme un peu. Il était du sud, donc. Non! Non, est-ce que vous savez que tous les prophètes, d'une manière ou d'une autre, quelquefois très voilés, ont annoncé le Messie ? On dit quelque chose sur le Messie ? Oui, oui, oui. Voilà. Et en l'affirmant sur les écrits des prophètes, il aide les auditeurs à croire que ce pardon est de tout temps la volonté de Dieu. Et là, tu as et là, ça s'arrête. Vous recevez en son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, il y a une chose que Pierre n'a pas eu le temps de prêcher. Qu'est-ce que c'est ? Oui. On ne va pas faire plus de mystère. Oui, la repentance. Est-ce qu'il aurait dû ? Jésus a dit de prêcher la repentance. Il l'a fait lui-même, clairement, hein, Marc 1, Matthieu 4, etc. Et il a dit de prêcher la repentance. Et Paul, et ils l'ont fait le jour de Pentecôte, quand ils sont littéralement transpercés au cœur. C'est marqué. Parce que Jésus leur a dit, voilà, Dieu l'avait envoyé, mais vous l'avez fait mourir, etc. Ils sont transpercés au cœur. Et ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il leur dit, repentez-vous. Donc il le sait qu'il faut prêcher la repentance. Il l'a déjà fait, il le fera encore après, toute sa vie. Et là, pourquoi il ne le prêche pas ? C'est juste parce qu'il n'a pas le temps, parce que le Saint-Esprit descend et les gens commencent à prophétiser, à parler en langue, etc. Finalement, quelquefois, c'est bien quand le prédicateur est interrompu. Dit-il en regardant la montre. Personne n'a oublié le feu sous le cassoulet ? Enfin, ce n'est pas la saison. Hein. Amen. Voilà. Luc 24, 47, hein, il est écrit que le Christ souffrirait et que souffrirait ces choses et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est Jésus qui leur dit. C'est dans le mandat. Le mandat, c'est donc le kérigme, c'est le contenu de ce qu'il y a à dire. Et le mandat, c'est de dire ça et de vivre cohéremment, c'est pas français ça, en cohérence avec ça, et ça inclut de prêcher le repentir. Amen. Alors, un aide-mémoire. Vous allez dire, ça fait beaucoup de choses. Bon, vous avez l'aide-mémoire dans la Bible, c'est le meilleur, vous retournez à Actes 10, versets 36 à 44, pas de souci. Maintenant, quelque chose de plus... Mnémotechnique. Alors, vous prenez une feuille de papier, comme ça. vous l'imaginez, au milieu, un peu plus haut que le milieu de la hauteur, mais au milieu de la largeur, vous mettez une croix. Ensuite, à gauche et à droite de la croix, vous mettez... Il va le faire. J'ai pas pensé, en fait. En plus, je suis arrivé un peu tôt, j'aurais dû penser. Ah, vous la voyez, la croix, au milieu? Voilà. Merci. À gauche et à droite de la croix, vous mettez un R majuscule, un beau R majuscule. Et en dessous de la croix aussi, vous en mettez un. D'accord? À gauche du premier R, vous mettez un J ou un P. J'y crois pas. Je me suis perdu tout seul. Où il est, mon résumé? Oui, un J. Un J à gauche du premier R et un J à droite du deuxième R. D'accord? Vous y êtes? Tout le monde est là? Et puis à gauche du premier J, vous mettez un P. Et à droite du dernier J, vous mettez un P. Donc vous avez, à partir de la croix, R, R, J, J, P, et puis un autre P, il reste un R en dessous de la croix. Et donc là, vous avez, dans l'ordre où Pierre en a parlé, mais c'est un résumé, archi-résumé, juste une aide, le premier P, paix avec Dieu. Le premier J, Jésus est Seigneur. Et ensuite le R, récit. Le récit de ce qu'il a fait. Enfin, quelques éléments de ce qu'il a fait, le récit. Ensuite, toujours dans l'ordre où Pierre en parle, vous avez la croix, il a été crucifié. Ensuite, vous avez le deuxième R, il est ressuscité. Ensuite, vous avez le deuxième J, il est juge de tous. Et ensuite, vous avez le deuxième P, le pardon des péchés. Et vous avez un R qui est resté sous la croix, c'est ce que Pierre n'a pas eu le temps de dire, mais qui fait partie du kérigme. Et avec ça, alors si on le fait, si vous le mettez en ligne l'un au-dessus de l'autre, vous avez un chiasme, c'est-à-dire une liste de mots dont le plus important, c'est celui du milieu, la croix. Qui c'est qui est content? Très rapidement, quelques remarques. Je peux encore, il est quoi, la midi 5? Il vient d'où le kérigme? De qui? De Jésus. Le contenu des évangiles, en fait, est le modèle du kérigme, où le kérigme correspond au contenu des évangiles. Et c'est Jésus qui a donné ce modèle. Si vous voulez, le message, vous pouvez l'intituler le kérigme, et entre parenthèses, est-ce que Jésus a dit quoi prêcher? Point d'interrogation. Les évangiles affirment d'où Jésus vient. Vous prenez Marc 1, 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'entrée, d'où il vient, qui il est. Il affirme qui il est. Les évangiles affirment pourquoi il est venu, pour sauver ce qui était perdu, etc. Le texte rapporte ses actes et ses paroles, c'est-à-dire vous avez affirmation et récit. Et c'est pour ça que c'est le cœur de la Bible, l'évangile. Affirmation et récit concernant notre Sauveur bien-aimé. Voilà. Et les disciples sont mentionnés dans les évangiles comme étant inclus dans l'histoire, ayant vu ces choses et ayant participé, même ayant eux-mêmes porté les pains qui se multipliaient et puis eux-mêmes guéri des gens, chassé des démons, etc. D'accord, ils sont mentionnés. Et puis, la fin des évangiles dépeint la crucifixion, dont Jésus avait précédemment donné le sens, et puis le texte rapporte la résurrection que Jésus avait annoncée. Et puis, il y a de nouveau, le texte mentionne les témoins de la résurrection et puis l'ascension. Et puis, les évangiles assurent que Jésus est Seigneur, qu'il sera juge. Jésus le dit, hein, Matthieu 25, le Fils de l'homme s'assiera sur son trône, les nations seront devant lui, etc. Hein. Et affirme que par le sang de l'Alliance, c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Et l'Évangile affirme pas mal de fois que Jésus appelait les gens à la repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Luc 13. Donc, c'est l'Évangile tel qu'il est constitué, si vous voulez, qui donne le modèle. Voilà, ça c'est une réflexion. Ensuite, je veux juste, par pur plaisir, rappeler ce que l'ange a dit. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Voilà. Il faut retenir ça. Des paroles par lesquelles il sera sauvé. Parce que, elle est où la puissance de Dieu? Dans la parole de la croix. Pas dans mes arguments. Ensuite, on a déjà parlé de Philippe qui va en Samarie. Il faut prêcher Christ. Voilà. Il faut prêcher Christ. Les gens ont besoin d'être mis face à la personne de Christ. Vous allez dire, mais s'il est déjà chrétien, il faut prêcher Christ. Parce que le chrétien qui a un problème, face à qui il doit être mis? Si tu as à cœur d'aider les frères et sœurs, de les visiter, de les inviter pour les encourager, et que tu penses que c'est à toi de leur donner la solution, c'est une chose. Mais si tu penses que ton rôle, c'est de les aider à se mettre face à leur berger, c'est ça le cœur de berger. D'accord? Voilà. Les gens ont besoin d'être mis face à la personne de Jésus et non face à une valeur, même si c'est l'amour. Entendez ce que je dis. Entendons plutôt, même si c'est l'amour. Les gens, Dieu n'a pas dit allez et prêchez l'amour. Alors pourquoi? Parce que sinon, la conception qu'ils ont déjà de l'amour, que ce soit au niveau des mœurs, au niveau philosophique, au niveau justice, enfin bon, peu importe, la conception qu'ils ont de l'amour va les amener à réduire Christ à être l'un des agents possibles d'une valeur supérieure qui est l'amour. Vous comprenez? Et c'est très tentant d'aller annoncer Jésus comme ça. Et là, on fait le jeu de l'universalisme, du syncrétisme, c'est-à-dire où on mélange toutes les religions, tout. Jésus est l'un des agents, admirables certes, de la valeur supérieure qui est l'amour. Et alors, ma remarque qui va venir maintenant est difficile, elle demande du temps, de la réflexion, mais tant pis, je la dis quand même. Le kérigme ne mentionne pas explicitement l'amour de Dieu. Il le raconte en racontant Christ. Mais en fait, ce n'est pas l'amour qu'on prêche. Je dis pardon, hein. Enfin, pourquoi je dis pardon quand je dis la vérité biblique? Ça ne rend pas bien. Voilà. Et s'ils se convertissent quand même quand je fais comme ça le mauvais mélange? Ils vont lire quand ils liront la Bible. Ils vont trouver un autre évangile que celui que je leur ai prêché. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Et si un prédicateur vient en disant, mais Dieu, il ne juge pas, Dieu... Vous voyez? Ils vont dire, oh, celui-là, c'est le meilleur de l'année. Voilà. Et bien sûr, en aucun cas, l'évangile, c'est de dire, en aucun cas, bénir les gens... dans la rue, au boulot, dans la famille, en aucun cas bénir les gens ou leur dire l'évangile, c'est leur dire à quel point ils sont formidables et qu'ils ont en eux un fond divin qu'il faut faire remonter. Voilà, c'est pas l'évangile ça, hein? Voilà. Et que le salut consisterait à le faire remonter. Mais allez prêcher ça, mon pauvre, mais vous allez être populaire, hein? Là, vous aurez très vite des centaines, puis des milliers de personnes qui vous suivront si vous prêchez ça. Sauf que Jésus, il ne sera pas là. Alors, pour ceux qui réfléchissent, qui pardon, oh là là, c'est comme ça qu'on se fait des amis. Stop. Ma femme me dit stop. Ma femme me fait stop avec des grands gestes. Qui c'est qui est d'accord avec ma femme? T'as qu'une personne en soutien. Non, mais dans les 5 minutes, j'ai fini. Regardez-le. Hein. Il n'y a pas quelquefois, alors malheureusement depuis un petit siècle, on oppose dans le christianisme prêcher comme les 12 puis les 70 l'ont fait. Ils sont allés, ils ont prêché le royaume, ils ont guéri des gens, ils ont fait des miracles. On oppose ça à prêcher le kérigme. Donc, plutôt dans le monde pentecôtisant, charismatique, on dit c'est ça, il faut prêcher le royaume. Et puis, dans le monde dit non charismatique, parce que tout le monde est charismatique en vérité, on dit non, mais le kérigme, la parole de Dieu, le prêcher comme c'est écrit, tout ça. Et en fait, il n'y a absolument pas lieu de les opposer. Il n'y a pas lieu de les opposer. Parce que les consignes que Jésus leur a données, si vous rentrez dans une ville, dites la paix soit sur cette ville, etc. Ça te ramène au kérigme. Ou plutôt, le kérigme est la réalisation de ces consignes. Ça va complètement avec. Ok, j'ai plus que 4 minutes. Alors, oui. Mon pauvre, là, il faut que je... Voilà, 4 minutes. D'abord, une question. Est-il important de prêcher l'évangile tel que les apôtres de Christ l'ont prêché? Non, ce n'est pas important. C'est vital. Ouf! Il y en a qui sont rassurés. Sinon, c'est tout simplement pas l'évangile. Pas compliqué. Alors, cette prédication de Pierre, c'est une annonce de grâce. Dès le début, il parle de la bonne nouvelle de la paix avec Dieu. C'est une annonce de grâce qui mentionne le jugement et le péché. Alors, beaucoup disent, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas été, Dieu n'a pas envoyé le Fils de l'homme dans le monde afin qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et en prenant ce verset, en prenant complètement hors contexte, on dit, bon, ben, il ne faut surtout pas dire que Jésus juge, il ne faut pas prêcher le jugement. Mais le verset suivant, Jésus dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jean 3,16, on le sait par cœur. Jean 3,17, c'est ça. Je n'ai pas été envoyé pour juger. Et Jean 3,18, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc Jésus, dès le début, il dit clairement qu'il y a jugement. Et plus loin, il dira que c'est lui qui jugera. Voilà, on connaît l'histoire de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et lui dit, je ne te condamne pas non plus. Et puis il dit, va, il ne pêche plus. Alors, là, très, très rapidement, j'ai quelque chose à, si vous voulez, on doit bénir les gens, sans les condamner, mais sans minimiser le péché et sans le taire. Est-ce qu'à un ami non chrétien ou à ma belle-sœur, si le moment où elle écoute, elle est disposée comme Corneille, est-ce que là je dois parler du péché ou non? Mais bien sûr, elle est dans le péché, Dieu le sait. Est-ce que je dois dire, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, donc moi j'en parle pas. La Bible ne dit pas que j'en parle pas, elle dit implicitement que c'est pas moi qui convainc. Comprenez? Bien sûr que je dois en parler. Il y a eu des temps et des milieux où on pensait qu'évangéliser, c'était convaincre les gens qui sont pécheurs. Et on arrivait à déstabiliser leur conscience à certains. Et il y a d'autres temps et d'autres lieux où c'est convaincre les gens qui sont formidables. Mais l'un comme l'autre, on décentre l'évangile. Et quand notre évangile est devenu meilleur que celui de Jésus-Christ, là il faut pleurer. Là il faut pleurer. le péché est juste mentionné dans le kérigme. Il est mentionné. Voilà. Et c'est par nos paroles que l'Esprit travaille aussi beaucoup. Alors, pour conclure, la conclusion promise, c'est le même évangile qui d'abord appelle et qui ensuite enseigne. Paul dit aux Romains, « Je désire venir vers vous et vous annoncer l'évangile. » Il dit, « Vous prêchez l'évangile. » Et ils sont tous chrétiens. Parce que c'est ça qui m'enseigne, qui me nourrit. Qui est Christ? D'où il vient? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et sa croix, sa résurrection corporelle. Et il est juge, et il jugera, et il pardonne. Et c'est de lui que vient le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu et de Jésus qui vient sur nous. Et il n'y a pas deux évangiles. C'est, si, comment dire, l'Église au sens là, l'ensemble des chrétiens d'un endroit est paralysé, si vous voulez, en partie, quand il a eu un évangile pour se convertir et qu'il nous faut 20 ans dans l'Église pour lui faire admettre l'évangile, celui de Jésus. Il ne faut pas qu'on ait deux évangiles, un pour dehors, un pour dedans. C'est le même évangile qui m'appelle et puis ensuite qui m'enseigne et me nourrit. Et toutes les écritures, toutes les épîtres ne sont que des implications et des applications de l'évangile. Amen.